Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du Club des burn-outés et des bienveilleurs.
Bonjour Marc.
Bonjour Christophe.
Alors aujourd'hui, on a la chance et le privilège de recevoir une grande amie du club. On se côtoie sur LinkedIn depuis un certain temps. Je ne sais pas si on parle en mois ou en année, avec Astrid. Astrid Le Fur, c'est vraiment un grand, grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, tu vas nous expliquer évidemment pourquoi tu es ici. On va mettre en avant aussi ton blog, hein, partage ton burn-out. Voilà, bienvenue parmi nous et encore une fois, c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous, Astrid.
Bonjour Astrid.
Bonjour à tous les deux. Je suis ravie d'être avec vous ce soir.
Alors Christophe a fait un petit peu effectivement ton portrait en introduction, comme on le fait à chaque fois. Mais ce qu'on aime bien, c'est que on commence toujours le podcast par présenter un petit peu la personne qui nous rend visite. Et puis pour qu'on se connaisse un petit peu plus, est-ce que Astrid, tu peux nous dire qui tu es et d'où tu viens?
Qui je suis? Donc Astrid Le Fur, je suis l'auteur du livre qui est derrière moi, je pense qu'on en parlera un moment, donc qui s'appelle « Du burn-out au burn-out, les 7 étapes vers la renaissance ». Et mon métier aujourd'hui, c'est d'accompagner les personnes et les entreprises dans la prévention et l'accompagnement du burn-out. Ça veut dire qu'à la fois, j'interviens auprès des personnes qui s'épuisent au travail pour se créer une vie qui leur ressemble plus avec comment s'investir sans s'épuiser. C'est en général la question de fond qui est. Et puis, j'interviens aussi en prévention au niveau de l'entreprise parce que j'ai vraiment une envie de pouvoir agir en amont et pas seulement après que les gens soient épuisés, soit avec des conférences, soit avec des formations auprès de différentes instances. Ça peut être RH, manager ou parfois il y a des personnes sentinelles qui se portent volontaires pour être les points d'ancrage de la discussion sur le sujet du burn-out.
Donc, évidemment, si tu es là, c'est aussi que tu as fait toi-même des burn-out, hein, c'est ce qui t'a mené à cette reconversion. C'est quelque chose qui est toujours admirable, hein, d'arriver à aider les gens. Nous, on le fait dans un cadre non professionnel, mais c'est cette notion de faire quelque chose de ce qui t'est arrivé, hein, pour aider les autres. Alors, tu as fait deux burn-out, c'est bien ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est un petit peu passé, concrétisé et comment tu es retombé?
Donc, je suis ingénieure de formation. Donc, a priori, rien ne me prédestinait à parler du sujet du burn-out, si ce n'est, comme tu l'as mentionné, Christophe, que le burn-out est venu me rencontrer, on peut dire comme ça. Je ne l'avais pas invité, mais il s'est invité de lui-même sur mon chemin. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais beau avoir fait des études scientifiques, et bien quand ça m'est arrivé, je n'ai absolument rien compris à ce qui se passait. Je ne l'ai pas du tout vu arriver alors que le mot existait déjà, j'en avais déjà entendu parler. Mais je me suis rendu compte à quel point j'avais une non-connaissance ou une non-compréhension de ce que c'était et que si ça avait été le cas, j'aurais pu agir et alerter bien en amont. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, je suis ingénieure, j'avais des questions assez précises. J'en avais trois précisément. Qu'est-ce qui fait que je m'étais retrouvée dans cet état-là? Qu'est-ce qui allait se passer pour moi? Et qu'est-ce que je devais faire pour aller mieux? Et les personnes qui m'entouraient, donc les professionnels de la médecine autour de moi, ne répondaient pas à ces questions-là. Donc, elles étaient peut-être un peu trop gestion de projet pour leur pratique. C'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a intéressée, où je me suis dit, c'est très simple, Astrid, je faisais de la recherche scientifique, tu sais faire de la recherche, puisque tu n'obtiens pas des réponses suffisamment précises pour créer ton plan de redressement, on pourrait dire ça. Eh bien, tu vas les chercher par toi-même. Donc, à cette époque-là, c'était en 2016, je me suis mis à chercher de l'information sur le sujet du burn-out pour répondre à ces trois questions de fond, comprendre les causes, quoi faire pour aller mieux. Et puis, j'ai commencé à développer une certaine compréhension de ce que c'était et notamment un schéma que j'ai appelé les 7 étapes du burn-out, qui est la trame de mon livre, que j'ai voulu ensuite comparer, toujours dans ma logique scientifique, à des histoires de burn-outés. Donc, je me suis mis à interviewer des personnes, à leur dire, racontez-moi votre histoire, et à comparer leur histoire à ce que j'avais pu retirer de ma bibliographie ou de ce schéma des 7 étapes. Et c'est là que j'ai vu qu'effectivement, les histoires, elles correspondaient à peu près toutes à la mienne, et qu'on traversait tous ces différentes étapes, même si le chemin de chacun est complètement individuel, il n'empêche qu'on trouve des piliers clés pour se remettre d'un burn-out. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu toute cette matière que je me suis dit, bah, c'est vraiment dommage de faire tout ça que pour moi. Et j'ai eu envie de le partager. C'est comme ça qu'en janvier 2019 est né le blog Partage ton burn-out. Donc vraiment, il porte le nom de mon intention, l'idée de partager toutes ces histoires, la mienne, celle des gens que j'ai interviewés, et d'inviter les lecteurs à partager eux aussi leurs histoires sur ce sujet qui est souvent trop tabou, qu'est le burn-out.
Oui, donc on voit bien que c'est suite à cette expérience, en fait à cette double expérience que tu as mis en place tout cela, à la fois le livre et le blog. Le blog, tu as commencé, hein, je crois, par le blog. Comment ça t'est venu, cette idée de partager, enfin de faire un blog dans lequel tu allais partager ces histoires? Est-ce que c'est venu naturellement? Est-ce que c'est venu petit à petit? Comment ça s'est passé?
Alors ça, c'est une super question parce que souvent, les gens se disent que c'est facile pour les autres ou autres. Et en fait, c'est jamais facile pour les autres aussi. Hein. Comment ça m'est venu? Donc, j'étais dans cette phase de transition professionnelle, c'est-à-dire qu'après 2016, quand j'avais vécu mon premier burn-out, j'étais retournée à mon poste, mais quand même avec cette intention de continuer à comprendre le sujet. Tout ça, ça restait pour moi. Jusqu'à un moment, au moment du deuxième moment où je me suis épuisée, où je me suis rendue compte qu'en fait, j'allais pas pouvoir contribuer au monde à la hauteur de ce qui avait de la valeur pour moi en restant dans mon poste. Donc, il y a vraiment eu une rupture de valeur à ce moment-là entre ce que j'étais en train de faire professionnellement, ce qui se passait à ce moment-là dans le monde de l'entreprise où j'étais, et ce qui était important pour moi ou ce que je voulais de ma vie. D'ailleurs, les sujets des deux burn-out étaient différents, donc c'était intéressant parce que ça m'a permis justement de rajouter de la matière. La première fois, on était vraiment sur un burn-out plutôt classique de type surmenage, pression auto-mise ou extérieure, peu importe. Hein, et puis dans la deuxième partie, j'avais déjà beaucoup travaillé ces éléments-là. Par contre, on était plutôt sur du domaine de la rupture de valeur. Ça m'a permis de comprendre cette dimension supplémentaire qui est en fait essentielle dans le burn-out, que je n'avais pas encore compris. Et donc, j'étais dans cette phase où j'avais compris qu'il fallait de toute façon que je change de métier. Je m'étais déjà formée au coaching professionnel et mon intention, c'était d'accompagner comme moi je l'avais vécu, donc des managers ou des cadres dans leur posture professionnelle, etc. Et pas forcément de faire un lien avec le burn-out, mais quand on est en formation de coaching, on reçoit du coaching en même temps qu'on en donne. C'est vraiment des formations qui sont souvent expérientielles. Et donc, pour le recevoir, il faut apporter des vrais sujets. Et donc, un des sujets que j'ai apporté pendant cette formation, c'était de dire, ben voilà, j'ai le sujet du burn-out et j'ai envie d'en faire quelque chose, mais à la fois, je ne sais pas quoi en faire. Et puis surtout, j'avais des peurs énormes de me dire, mais moi, je suis ingénieure, OK, j'ai fait ma recherche pour moi, mais je me sentais incompétente pour parler du sujet. J'avais peur que des personnes me reprochent d'oser prendre la parole, etc. Donc ça, c'est juste pour dire que les peurs, elles sont pour tout le monde. Hein. Quand on voit les gens qui ont écrit des livres, on se dit « Ouais, c'est génial, ils osent », mais ils ont tous eu peur avant. Hein. Faut être clair là-dessus. Ouais. Et donc, comme j'étais en formation, bah, du coup, c'est devenu un sujet de coaching pour une de mes collègues qui se formait du coup sur moi. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, je me suis mise à me mettre un pas après l'autre en mouvement. Ça commence par acheter une formation pour savoir faire du blogging, créer un site internet, enfin, c'est quand même des choses qu'il faut apprendre à faire. Donc, c'est comme ça que les pas se sont mis petit à petit, jusqu'au moment où ça devient effectivement en ligne. C'est au moment où on publie son premier article que là, on se dit, bon, ça y est, c'est le verdict, savoir si tout va être chamboulé ou pas. Et donc, il faut être transparent. En fait, il ne se passe absolument rien au moment où on publie parce que personne n'est au courant qu'on a créé un blog et que les algorithmes font que quand on vient de créer un site, ben, personne ne le trouve si on ne leur a pas dit qu'il existait. Et puis, j'ai partagé par moi-même ces premiers articles, en fait, autour de moi. Très vite, le blog a pris beaucoup d'ampleur. Il y a eu beaucoup d'échanges, soit dans les parties commentaires, soit directement en mail. Les gens m'écrivaient. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment important de parler du sujet et que j'ai fait coller mon métier de coach qui avait déjà commencé au sujet du burn-out. Et j'ai commencé à en parler non plus que sur mon blog, mais vraiment de façon large, en incluant LinkedIn aussi, pour en parler de façon professionnelle, et pas que dans la sphère privée, mais année après année, en fait, le sujet est devenu mon sujet phare.
On a créé les clubs pour se protéger, hein, parce que nous, on a passé beaucoup... Alors, nous, on n'était pas des coachs, on n'était pas professionnels, et au départ, quand on a commencé à communiquer sur le sujet, on a passé beaucoup de temps avec des gens qu'on ne connaissait pas, hein, sur les réseaux, au téléphone, etc. Sauf que bah, c'est épuisant. Hein, c'est épuisant. Évidemment, on est des éponges à émotions. Comment tu as réussi à te protéger, toi?
En fait, ça n'a jamais été un problème pour moi. Je pense que je ne suis pas en train de revivre mon histoire quand j'écoute celle des autres. Je suis vraiment en train d'observer, mais peut-être parce que c'est justement du fait de ma formation de coach. Quand on est coach, on n'est même pas dans l'histoire que l'autre nous raconte. On est en train d'observer les schémas qui se passent à l'intérieur. Donc, c'est comme si on avait du recul tout le temps sur l'histoire elle-même. Donc, peut-être que c'est ma formation qui me permet effectivement de ne pas me retrouver pris dans l'émotion et dans l'histoire de l'autre ou en écho avec la mienne. Aussi, je suis hautement sensible, donc je perçois les émotions fortement et ça ne me gêne pas du tout d'être traversée par des émotions. Donc, je peux pleurer avec un client ou autre. Et c'est parfaitement OK pour moi, c'est quelque chose qui me traverse et qui ne vient pas générer un mal-être ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est être vivant que d'avoir des émotions, donc on en a, on est vivant et puis c'est OK.
Ton expérience personnelle, tous les témoignages que tu as reçus, hein, comment tu pourrais le décrire le processus du burn-out ?
Ce qui est certain, c'est qu'au moment où on parle du burn-out, en fait, on en est au milieu. Et ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'il y a eu des étapes avant. Et que ce n'est pas du jour au lendemain où on se retrouve en burn-out. Et le mieux on connaît ces étapes d'avant, le plus on est capable d'agir pour ne pas se faire trop mal. Après qu'il y ait des hauts et des bas, il y en aura toujours dans la vie, hein. Donc déjà en amont, c'est la phase que j'appelle l'euphorie. C'est la phase où on vient ancrer toutes nos croyances vis-à-vis du travail, tous nos schémas. Et c'est vrai que si on avait dans notre éducation un peu plus en amont, un regard là-dessus, ça pourrait être aidant par la suite. Par exemple, si je parle de moi, donc moi, dans les caractères, on va me retrouver dans la partie, par exemple, perfectionniste. J'aime bien faire mon travail. Et jusqu'au moment du burn-out, j'ai toujours cru que c'était une super qualité, jusqu'à ce que je comprenne à quel point ça pouvait m'entraîner dans des schémas d'épuisement. Non plus quand on fait son travail parce qu'on aime bien le faire, mais plutôt parce qu'on se sent obligé de faire à tel niveau, qu'on a peur de plus être aimé si on n'y arrive pas, etc. Parfois, on est obligé de passer par un burn-out pour se poser des questions. Bon, c'était mon cas. Après, il y a toute la phase de burn-in. C'est cette phase où on commence vraiment à s'épuiser. C'est là vraiment où il faudrait agir, en fait. Et ce que moi, j'ai bien compris et observé d'ailleurs dans mon comportement, c'est que l'épuisement, il a déjà commencé quand on est en mode super-héros. Dans les histoires des personnes, de la mienne et celle des autres, probablement la vôtre, il y a toujours ce moment où on s'est senti invincible, capable de tout faire. Et en fait, quand on est dans cet apogée du super-héros, on est déjà dans le burn-in, on est déjà en train de s'épuiser à l'intérieur. Et c'est ça qui est assez difficile à considérer parce que ce serait le moment où il faudrait se dire, bon, là, j'ai déjà donné beaucoup, ça ne peut pas durer. C'est sur un temps court qu'on peut être super-héros, on ne peut pas du tout le faire dans la durée. Se suit dans ce burn-in toutes les phases physiologiques que les gens qui l'ont traversé vont reconnaître, les douleurs, les problèmes organiques, enfin, je ne sais pas, tachycardie, problèmes de vue, de peau, etc. Et tout ce qui va être troubles comportementaux aussi. Irritabilité ou isolement. Donc ça, les gens, ils commencent à savoir qu'ils dysfonctionnent. Moi, là, je savais très bien que je dysfonctionnais des mois avant que je me retrouve en arrêt de travail. Par contre, je ne faisais pas le lien avec le burn-out. Ça, c'était la dimension qui me manquait et où il aurait fallu plus de communication en entreprise pour que je puisse faire le lien et me dire « Ah ben oui, là, je me reconnais ». Souvent, les gens, ils cochent toutes les cases. Hein. Ils me disent « Ah ben, je me reconnais là, là, là ». Bon, ben, quand on a coché plusieurs cases, c'est qu'il faut aller voir son médecin. Et puis, c'est pareil, il y a les étapes après. Parfois, on se dit, bon, ben, ça y est, le diagnostic est posé. J'ai pris, alors souvent, au début, on n'a qu'une ou deux semaines d'arrêt, c'est assez court. Et les gens se disent, ben, après avoir dormi une ou deux semaines, je vais retourner au travail et puis ce sera merveilleux, reparti comme neuf. Et puis, en fait, non, parce que le burn-out, c'est bien plus profond que ça. Ce n'est pas juste une fatigue, en fait. Ce n'est pas dormir une ou deux semaines qui va changer les choses. On a besoin de tout ce temps d'introspection pour comprendre les fameuses graines dont on a parlé. Et ça, c'est les étapes d'après. Mieux se connaître et puis aussi créer un rapport différent au travail. Ça, c'est vraiment important.
Alors, c'est intéressant que tu parles de tout cela parce que c'est vrai qu'on retrouve hein, un petit peu ce qu'on dit aussi avec Christophe, ce qu'on essaye de communiquer. Tu parlais aussi de la phase d'après. Alors, c'est difficile hein, de définir des meilleures pratiques, ce qu'il y a à faire, etc. Est-ce que tu as des conseils particuliers que toi, tu pourrais donner, que tu as suivi toi-même, qui t'ont aidé en fait dans ce chemin pour repartir ?
Les conseils, ce n'est pas les mêmes en fonction de là où on en est. Donc, notamment au moment où on est en arrêt au tout début, ce n'est pas le moment de se demander ce qu'on fait après ou autre. Juste après le moment de l'arrêt de travail, souvent on a une phase de décompression qui est assez noire. C'est la phase où d'ailleurs sur notre arrêt de travail, il y a écrit « troubles anxio-dépressifs » ou des choses qui ressemblent, parce qu'on est vraiment dans cet état plutôt d'humeur dépressive et on a l'impression que le tunnel, il est tout noir et qu'on n'est même pas sûr qu'il y ait une sortie au bout, quoi. Donc, dans cette phase-là que j'appelle la décompression, le maître mot, c'est accepter et lâcher prise. Et donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est faire rien. Donc ça, c'est souvent très difficile parce que c'est le début où on est en arrêt et que souvent, les gens n'ont pas été vraiment en arrêt avant, qui ne sont pas trop habitués à être en arrêt de travail. Que s'ils n'ont pas eu un accident ou un problème physique, ben ça ne se voit pas. Donc, ils ne sentent pas vraiment le droit d'être chez eux alors que leur corps va bien. Or, c'est le moment justement de lâcher toutes les obligations. Il faut couper les sources de stress, arriver à lâcher avec le travail, mais avec les sources de stress de la maison aussi. Parce que parfois, on remplit ce qu'on a, si on a osé lâcher au travail, on remplit avec « tiens, c'est l'automne, je vais ramasser toutes les feuilles du jardin ». Mais si on le fait parce qu'on a peur que notre femme nous engueule, parce qu'on n'a vraiment rien fait de la journée, non. Donc ça, c'est vraiment sur cette première phase décompression, faire rien, lâcher prise et accepter. Oser se dire « ben oui, je suis en arrêt, c'est pas ce que je voulais, c'est pas confortable, je me sens coupable, honteux, peu importe, mais c'est comme ça que ça va se passer ». Ouais, ça a l'air simple, mais c'est hyper dur.
Ouais. Ce qui est aussi compliqué, tu en parles très bien dans ton livre, c'est qu'effectivement, pour le conjoint ou la conjointe, c'est compliqué aussi à appréhender. Tu l'as dit, la personne elle est en arrêt à la maison toute la journée. On n'a pas appris conjoint et conjointe à être aidant et aidante et à être témoin de personnes affalées dans le canapé qui ne peuvent rien faire.
Ça, c'est vraiment important, effectivement, à expliquer au conjoint, de se dire ben, c'est une phase normale. Qui a une durée, ça dépend des individus, mais plus la personne a réussi à lâcher prise, et plus cette durée, elle va être courte. Mais effectivement, tu as raison, Christophe, ça peut créer de la tension dans la famille, parce que c'est possible que les autres, conjoints, enfants, ne comprennent pas ce qui se passe, et même qu'ils aient peur, et qu'ils aient cette pensée, dans le fond, bienveillante, de se dire, mais si je la secoue pas, il ou elle va rester dans son canapé pour toujours. Et donc, les peurs, elles sont de tous les côtés. Après, il y a la phase de récupération. Donc là, le maître mot, c'est prendre soin de soi. Je propose 3 niveaux. Il y en a probablement d'autres, mais en tout cas, moi, j'en ai observé 3. Le premier, c'est que c'est la phase de thérapie. Prendre soin de soi, c'est aller voir des thérapeutes, alors quelles que soient les différentes approches, ça dépendra de chacun, psychothérapeutes ou des thérapeutes plus psychocorporels, par exemple, pour ceux qui préfèrent ces approches-là, pour venir déposer tout ce qu'on a vécu. Et je dis, et pourquoi pas soigner aussi tout ce qu'on a vécu d'avant, qu'on n'a pas pris le temps de soigner. Et tant qu'à sortir tout de la boîte, autant y aller. Il y a la partie aussi corporelle. Le corps a souffert à travers le burn-out. Ben, c'est le moment de prendre soin de lui, que ce soit avec l'alimentation, se faire masser ou soigner si on a besoin d'aller voir un ostéo, parce que peut-être on est complètement coincé du fait des tensions musculaires, par exemple. Et puis, pourquoi pas avec des sports doux, yoga, marche, natation. On reste toujours dans cette idée de plaisir et de douceur. Et la troisième dimension, c'est celle qui est souvent la plus difficile pour les gens en arrêt de travail, c'est se faire plaisir, renouer avec les émotions positives. Et donc, c'est vraiment ça que j'explique, c'est qu'on a besoin d'énergie pour la suite, pour réaborder le travail. Et cette énergie, elle s'ancre aussi dans les émotions positives que l'on vit, dans le fait d'avoir de l'estime personnelle. Le burn-out, souvent, ça écrabouille beaucoup notre estime personnelle. Et donc ça, c'est difficile à récupérer si on s'interdit de faire des actions qui nous font plaisir ou qui nous font du bien. Donc ça, c'est la dimension récupération. Et la toute dernière, une fois qu'on a de l'énergie, qu'on a plus de douleur dans le corps, c'est seulement à ce moment-là que c'est le moment d'aborder le travail. C'est la phase de reconstruction, de se dire qu'est-ce qui s'est passé pour moi et qu'est-ce que je fais différemment dans le reste de ma vie professionnelle. Parce que si on ne change rien, on a toutes les chances de reproduire les mêmes schémas, ça c'est sûr.
Dans le cas des gens que tu rencontres, tu dirais que la majorité décide pendant cette phase de changer de vie ou une majorité décide de revenir dans le travail qu'elle faisait avant? Comment ça se passe?
Les deux sont possibles en tout cas. Ça, ouais. C'est vraiment important de considérer que les deux sont possibles. Ça dépend beaucoup de la source du stress chronique. Si les sources peuvent être modifiées dans l'environnement dans lequel ils sont professionnellement, du coup, c'est possible de trouver un terrain pour être bien. Mais si ces sources ne sont pas modifiables, soit parce que l'entreprise ou l'environnement de travail ne souhaite pas les modifier, soit parce que c'est inhérent au travail, par exemple, dans ce cas-là, les gens vont effectivement élaborer une vie qui sera à l'extérieur et ils vont changer de métier. Mais souvent, ils ne vont pas juste changer d'entreprise, ils vont changer de vie complètement, comme moi, c'était mon cas.
Donc, 7 ans après, tu as quand même trouvé un vrai équilibre maintenant.
Ah oui, c'est sûr. Pour moi, c'est le chemin que j'avais besoin de faire. En fait, cette posture de coaching que j'ai aujourd'hui, quand je refais mon histoire, en fait, c'est celle que je voulais avoir quand j'étais au lycée à l'époque, sauf que je ne savais pas que ça existait. Sauf que être ingénieur, c'était quand même beaucoup plus rassurant que un métier qui a pas de définition où on est indépendant, etc. Donc j'aurais pas pu faire ce choix-là avant. D'ailleurs, c'est un métier où on a besoin d'avoir un vécu entreprise pour pouvoir apporter quelque chose et avoir un peu de maturité. Mais c'était réellement qui je suis dès le début. C'est juste que j'avais besoin de passer par autre chose et que clairement mes choix professionnels, ils étaient faits d'abord par des craintes et des besoins de sécurité, besoin qui a sauté avec le burn-out. Parce que si être en sécurité financière, ça voulait dire potentiellement mourir au travail, parce que c'est ça le burn-out, du coup, ça n'avait plus aucun sens.
Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est, tu l'as peut-être dit tout à l'heure, le titre de ton livre, du burn-out au burn-out. Toi, tu as cette notion de chrysalide, hein, des personnes qui sont en burn-out, que moi, j'ai trouvé assez touchante et géniale. Toi, il y a quelque chose qui est né de tout ça.
C'est un choix qu'on fait où on se dit, ben, je décide que même si c'est douloureux, difficile, même si je ne l'ai pas voulu, je suis capable de transformer cet événement en quelque chose de bon pour moi et pour les autres. Et ça, j'ai vraiment cette intime conviction que tout le monde est capable de le faire. C'est pour ça que je prends cette image de la chrysalide, de l'idée qu'en fait, c'est la transformation de la chenille en papillon. Et donc, le burn-out, ben, il permet cet espace de transformation, de retrait du monde pendant que ça se passe. Et si on fait un travail personnel en parallèle du burn-out, ben, on a cette opportunité de se transformer.
Tu as ton métier? Est-ce que tu as des projets? Je ne sais pas, un deuxième livre, des conférences, t'en fais régulièrement, je ne sais pas. Quels sont tes projets?
Ah, écoute, c'est une super question. J'ai donc aujourd'hui, j'ai un axe qui est vraiment d'intervenir de plus en plus en entreprise pour vraiment créer des environnements qui sont sains, durables. Mais j'ai vraiment une intention de créer comme un groupe de travail avec d'autres experts et avec des entreprises, justement de réflexion, d'observation, de qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du système. Donc, non plus au niveau de l'individu, mais au niveau des systèmes entreprises.
Effectivement, si un jour tu as besoin de personnes qui sont encore dans le monde corporate, qui se posent les questions, qui essayent douloureusement de faire bouger les choses en interne, qui malgré tout essayent aussi de se transformer, parce que nous, on va se transformer en association, c'est un souhait de notre part. Écoute, on sera là pour t'écouter et puis pour contribuer si tu le souhaites.
Avec grand plaisir.
Écoute, c'était un énorme plaisir, Astrid. Ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'on se croise dans la vie réelle. On se voit bientôt.
Tu prends Avec soin plaisir. De
toi. Hein, tu prends bien soin de toi, de ta famille. Et puis, on a hâte de voir toutes ces choses qui vont prendre jour.
Avec plaisir.
Eh ben, très très grand merci Astrid pour ce moment tous ensemble. Merci Christophe et puis à bientôt alors.
Très vite.
Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du Club des Burnoutés et des Bienveilleurs.